aussi la bonne odeur dans l'air quand votre mère parfume la maison, hein? Ah, eh bien, vous ne pouvez pas voir le produit dans l'air, n'est-ce pas? Cependant, vous pouvez sentir l'odeur qu'il donne. Et vous savez, avec l'histoire d'aujourd'hui, nous allons apprendre que la même chose arrive avec la personne qui est remplie de foi. Nous ne pouvons pas voir la foi. Cependant, les attitudes montrent que la foi est là. Et vous voulez apprendre plus à ce sujet? Oui? Alors, vous savez, après la mort et la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples qui ont commencé à prêcher et à parler de tout ce qui s'était passé. Beaucoup de gens ont commencé à accepter Jésus comme leur sauveur. Et donc l'Église grandissait de plus en plus. Le travail des disciples aussi grandissait. Et pour les aider avec de nombreux services, ils ont décidé de faire un choix et d'élire 7 personnes qui allaient les aider. Les élus ne pouvaient être n'importe qui. Ils devaient être fidèles, intelligents, bien se comporter et être remplis du Saint-Esprit. Ils seraient responsables de prendre soin des veuves, des nécessités du temple et des disciples. Ainsi, les disciples pourraient continuer à prêcher la parole de Dieu sans aucun souci. Ce n'est pas merveilleux? Et vous savez, lorsque furent choisies les 7 personnes, les disciples prièrent pour eux et les bénirent. Et vous savez, l'un des choisis fut un homme du nom de Étienne. Étienne était exactement l'exemple de ce que les disciples cherchaient. Il avait une grande foi. Il était beaucoup utilisé par Dieu. Alors après avoir été choisi, il avait l'opportunité d'aider les disciples. Étienne a traversé une situation très difficile parce que le mal ne voulait pas qu'il serve Dieu. Et il utilisa certaines personnes pour essayer de lui faire du mal. Et oui, les enfants, cela arrive. Et certaines personnes religieuses ont commencé à discuter avec Étienne. Ces hommes cherchaient une raison pour accuser Étienne. Mais comme ils n'y arrivaient pas, ils payèrent alors des gens pour mentir et dire du mal d'Étienne. Les mensonges étaient si nombreux au point qu'Étienne fut traduit en justice pour être jugé. Mais vous inquiétez pas les enfants, il est resté fidèle à Dieu et il n'avait pas peur. Même là, il a continué à parler de Jésus avec foi et les personnes religieuses sont restées avec tant de haine qu'ils portèrent Étienne hors de la ville et ont commencé à jeter des pierres sur lui. À ce moment, Étienne n'a rien fait. Il aurait pu réagir, n'est-ce pas? Mais au contraire, il s'agenouilla et demanda à Dieu de pardonner l'attitude de ces hommes et qu'ils reçoivent leur âme dans le ciel. Étienne montra qu'il était un vrai serviteur de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont comme Étienne, pleins de foi, qui aiment Dieu par-dessus tout. Et même dans les moments difficiles, ils n'abandonnent pas. Ils restent fidèles jusqu'à la fin. Et oui, les enfants, et nous devons toujours donner de bons exemples et ne pas avoir peur de parler de Jésus aux gens. Nous devons utiliser notre foi pour gagner des âmes. Étienne s'est comporté comme un bon évangéliste parce qu'il a prêché sur l'amour de Dieu et sans avoir peur de ce qui pourrait lui arriver. Et dans la Bible, il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 2. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Et vous savez, le maître de la moisson, c'est Jésus. Alors, il faut prier toujours pour que nous aussi, nous soyons comme Étienne. Vous êtes d'accord, les enfants? Allez, j'espère que vous avez bien compris et que vous aussi, vous serez un bon évangéliste comme Étienne l'a été. Allez, que Dieu vous bénisse. Au revoir.
Alors, vous avez compris, les enfants? Elle est pleine de vie, hein, ça fait plaisir. Bah alors, on bénit les enfants qui vont rejoindre... Ils sont déjà peut-être partis. Non, j'espère pas. Voilà. Merci, en tout cas, ça me fait plaisir de vous voir. Bonjour à chacun et à chacune. Est-ce que vous êtes en forme? Vous allez bien? Très bien. Vous êtes plein de foi, plein de joie ce matin? C'est bien. Est-ce qu'on peut juste se saluer? Parce que entre la salle de maintenant et celle à 9h-10, elle a changé. Elle a doublé de taille. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Dieu fait grandir son église plus vite que ce qu'on pense. Est-ce qu'on peut juste saluer les uns les autres? Peut-être aller vers quelqu'un que vous ne connaissez pas ou dites-lui bonjour, accueillez-le, souriez-lui. Mais si vous voulez rester assis, vous pouvez rester aussi assis. Ne vous inquiétez pas. On salue aussi ceux qui sont dans leur salon. Saluez-vous. Enfin, voilà. Alors, je l'ai fait parce que le sujet que je vais partager ce matin, il est pas tout simple. On aborde cette vie d'Étienne, et vous savez qu'Étienne est mort martyr. Et normalement, les cinquièmes dimanches du mois, on propose que les enfants suivent le même thème que le prédicateur et ce qu'il apporte. Mais le problème, c'est que le prédicateur apporte des fois ce que le Seigneur lui met sur le cœur. Alors ce matin, je me disais qu'Étienne, mort martyr, c'était pas forcément un thème tout simple pour les enfants. Mais je bénis les moniteurs qui vont avoir la sagesse pour comment apporter ce sujet d'une manière renouvelée et nouvelle. Je propose juste qu'on lise le texte, comme ça, ça nous remet aussi, j'aimerais relever quelque chose par rapport au texte, et je vous invite à lire avec moi les versets suivants. La parole de Dieu se répandait, et le nombre de disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce, d'autres traductions disent plein de foi et de puissance, opérait de grands prodiges et des signes parmi le peuple. Quelques-uns parmi ceux de la synagogue, dit des affranchis, parmi les Cyrénéens et les Alexandrins, et parmi ceux de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec Étienne, mais ils n'étaient pas capables de résister à la sagesse de l'esprit par lequel il parlait. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu ». Et ils amettèrent le peuple, les anciens et les scribes, puis ils survinrent, le saisirent de force et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre ce lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Alors, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin fixaient les regards sur lui, Étienne, et virent son visage comme celui d'un ange. Et là, on saute la section qui est assez longue, qui est le chapitre 7, où Étienne va répondre de ses accusations et parler devant le Sanhédrin. Et on va juste lire la fin de son discours, les versets 7 à partir du verset, le chapitre 7 à partir du verset 51. Alors, la fin est bien corsée, vous le verrez. Il leur dit « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit comme vos pères. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont mis à mort ceux qui annonçaient à l'avance la venue du juste, dont vous êtes devenus maintenant les meurtriers après l'avoir livré, vous qui avez reçu la loi sur l'ordre des anges et qui ne l'avez pas gardé. » En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur. Ils furent selon certaines traductions, en colère. Et il grinçait des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois maintenant le ciel ouvert, les cieux ouverts et le Fils de l'homme, » donc c'est Jésus, c'est le titre que se donnait Jésus, « le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils crièrent alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait « Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et cria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Un euphémisme pour dire qu'il mourut. Saül approuvait le meurtre d'Étienne et il eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Voilà. Un texte pas tout simple, un texte où se passe beaucoup de choses. J'avais vraiment sur le cœur de continuer dans un peu ce que le Saint-Esprit nous parle ces derniers temps. On a eu un message au mois de janvier avec Daniel qui nous a parlé aussi d'être disciple en 2022. Et aussi Jean-Marie qui nous a parlé aussi dimanche passé de certaines choses dont j'aimerais aussi revenir. Et donc ce que je vais partager va vraiment dans ce sens de ce qui a été partagé jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que cette question m'habite depuis le début de l'année. La question suivante, qu'est-ce que ça veut dire d'être disciple de Jésus aujourd'hui, en 2022 ? Et Daniel, dans son message, nous avait partagé une citation qui a particulièrement retenu mon attention. Une phrase compliquée et difficile à dire, remplie de négations. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais il a fallu l'écouter plusieurs fois. Je ne sais pas vous, mais moi je suis un peu lent à comprendre. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle ? Est-ce que quelqu'un pourrait me la redire ? Bien sûr, hein, vous savez tous par cœur les derniers messages qui ont été partagés ici. Non, moi j'ai triché, je suis allé revoir, hein, je vous avoue. C'est une citation d'un missionnaire, James Elliot, en Équateur dans les années 50, qui a donné sa vie dans son témoignage pour Jésus parmi les Indiens, un jeune homme de 29 ans qui a dit la chose suivante, « Il n'est pas fou celui qui perd ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Ça va ? Moi aussi, quand je l'ai entendu, j'ai besoin de me le redire plusieurs fois. Vous savez, je suis hormonant d'origine, je suis un peu lent, un peu têtu, il faut vous redire plusieurs fois pour que je comprenne. Alors, je vais la redire, d'accord ? Il n'est pas fou celui qui perd ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Je redis encore une fois ? Je vois qu'il y en a qui font oui de la tête. Il n'est pas fou celui qui perd ce qu'il ne peut pas garder. Voilà, de toute façon, ce qu'on perd, on ne peut pas le garder. Pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Il y a une dimension spirituelle aussi. En fait, cette citation, c'est une paraphrase du texte sur lequel tu avais prêché, Daniel, qui est Marc 8, où, dans laquelle Jésus dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Et vous savez, cette façon de penser est étrangère à la nature humaine. Est étrangère à notre façon de penser habituelle. C'est vrai que humainement, on ne pense pas comme ça. Je ne sais pas si vous dites à quelqu'un, en perdant ta vie, tu vas la retrouver, comment il va réagir ? Il va nous prendre pour un petit peu fou, justement. Comment dire de cette phrase ? Il y a comme une contradiction, on dit, en offrant ta vie, en fait, tu la possèdes. En étant le dernier, tu deviens le premier. C'est absurde pour la majorité des gens de penser comme ça. Parce que la pensée habituelle, dominante, c'est plutôt le contraire. C'est de dire, si je ne me bats pas pour mes droits, qui va le faire ? Si je ne cherche pas à être le premier, qui va le faire pour moi ? Et si je ne protège pas ce qui est à moi, qui va le faire ? Mais on voit que Jésus, lui, il a offert sa vie pour les autres. Et alors qu'il était à la croix, en agonie, les gens se sont moqués de lui et lui ont dit, alors qu'il est dans une situation difficile, ils ont eu le culot de lui dire à ce moment-là, il a sauvé les autres, mais il n'est même pas capable de se sauver lui-même. C'était un échec pour la nature humaine de voir ça. Sa mort, cette façon de vivre, c'était un échec. Et Jésus qui nous appelle à être ses disciples, qui nous appelle à le suivre, a dit aussi cette phrase, a dit cette parole, « Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Et il y a eu un disciple qui a vécu cela, qui a vécu comme son maître, dans cette église qui démarrait à Jérusalem, et ce disciple, c'est Étienne. C'est l'histoire que nous venons de lire. Le premier martyr chrétien. C'est vrai que martyr, c'est un mot peut-être qui n'est plus tellement utilisé chez les jeunes aujourd'hui quand on dit ça. Et puis c'est un mot qui veut dire qu'on meurt pour sa foi et pour ses convictions. Et en fait, le mot, il est magnifique en grec. Martyrion, ça veut dire témoin, quelqu'un qui est témoin, qui témoigne, témoignage. Ça a donné ce sens-là. Pourquoi ça a pris une notion de négative, en fait ? Un martyr, c'est quelqu'un qui meurt. Parce qu'il faut juste se remettre dans le contexte de l'Église primitive. Pendant les trois premiers siècles de l'Église, qui témoignait de sa foi, qui témoignait quelque part qu'il y avait un Dieu unique, qui était en compétition avec l'empereur romain, qu'il fallait aussi adorer, eh bien, ils ont payé ce témoignage de leur vie. Ils sont morts pour ce témoignage-là. On connaît l'histoire où il y a eu, ça s'est étalé, c'était plus ou moins fort selon les régions dans l'Empire romain, mais de manière générale, et puis il y a eu des moments très forts où ils ont été même jetés dans les arènes, ils sont morts pour leur foi. Et du coup, martyr a pris cette connotation négative et quelque part de mourir pour son témoignage. On voit dans cette église qui se développe, cette église primitive, dans l'histoire qui a bien été racontée par cette jeune fille, et dans le texte qu'on a lu, une église qui va bien. On a une église qui vit quelque chose de beau. Les gens se convertissent. Il y a tellement de monde que finalement, il faut choisir des diacres parce que les apôtres n'ont plus le temps pour faire tout ce qu'il faut faire. Et ils nomment sept personnes. Donc parmi ces sept personnes, il y a Étienne, qui commence comme un diacre. Il n'est pas évangéliste tout de suite, il commence à servir d'abord. Ça commence souvent comme ça, le ministère, on sert. Et après, il se passe quelque chose. On voit que Dieu bénit Étienne. On voit qu'il a une onction même pour prêcher et pour faire des miracles. Et on voit même qu'il a tellement de succès que la foule l'aime, la foule l'écoute et que ça crée de l'opposition. Il y en a qui ne sont pas contents. Et du coup, il y a une confrontation avec ces religieux, justement, qui vont le convoquer devant le Sanhédrin. Sanhédrin, c'était un peu l'assemblée politique, religieux, même judiciaire. C'est comme un tribunal pour qu'il s'explique face à ces accusations qui, d'ailleurs, étaient fausses. Et là, il va se défendre. Mais il est rempli d'Esprit Saint. Et vraiment, on ne peut rien dire de nouveau. Et ce qui se passe, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure au verset 51. Il va leur dire, homme au cou raide, à la fin de son discours, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit comme vos pères. Et là, c'en est trop, quoi. Là, la foule, et surtout les sacrificateurs, mais aussi la foule, se précipite sur lui, l'emmène hors de la ville, le lynche et le tue à coups de pierre. Alors, j'aimerais m'arrêter ce matin sur plusieurs choses. D'abord, ce qu'Étienne a perdu. On va le voir, ce qu'il a perdu. On va voir aussi ce que Étienne a gagné. Et on verra, dans un troisième temps, l'impact qu'Étienne a eu. Alors, je ne suis pas sûr ce matin de pouvoir tout traiter. Alors, je vous rassure, c'est pour vous faire revenir dimanche prochain, ou la prochaine fois que je prêche. Alors, on verra où on peut aller ce matin, ensemble. Alors, tout d'abord, ce qu'il a perdu. Qu'est-ce qu'a perdu Étienne ? Il a perdu le soutien de la foule. Dans Acte 6, comme je l'ai dit, c'est le réveil. Dans le chapitre 6, il y a cette église qui a du succès, qui vit une croissance. Le nombre des disciples augmentait beaucoup, disait au verset 7. Même des sacrificateurs obéissaient à la loi. Vous imaginez le tsunami des sacrificateurs qui servent au temple à Jérusalem. Donc ça touche vraiment largement. Les gens, sans doute, l'aimaient à l'apprécier. C'est quelqu'un qui faisait du bien, qui servait pratiquement. Mais d'un seul coup, d'une manière soudaine, il se retrouve tout seul face à une foule violente. Il est dit au verset 54, « Ils furent exaspérés en colère dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui. » Tout allait bien. La foule l'aimait et soudainement, ça vire, le climat change. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation comme ça. Peut-être, peut-être pas. Peut-être dans quelque chose de moins fort, hein, où on est dans une certaine ambiance et puis dès que on veut faire autre chose ou dire autre chose, on sent que c'est peut-être pas le moment de le faire. Dernièrement, il y a un petit moment maintenant, j'ai décidé d'emmener mes enfants au voir un match de foot. Alors, j'habite pas loin du nouveau stade de la Tuilière, qui est très joli d'ailleurs. Je me suis dit, il suffit de marcher d'y aller. Donc, un jour, on va aller voir un match de foot. Donc, on a choisi un match. On est allé voir Lausanne contre Genève Servette. Alors, on est là, l'ambiance, tout ça. Et puis, on était proche vraiment des ultras. Vous savez qu'il y a les ultras au foot, ceux qui sont les vrais supporters, les vrais de vrais. Et on était vraiment pas loin d'eux. Et c'était assez étonnant de vivre ça. Je me rappelais plus, j'avais déjà vécu des matchs de foot. Mais on était là, et en fait, ils étaient là, ils soutenaient leur équipe. Allez, Lausanne! Et puis à un moment donné, on voit que Lausanne fait une faute, quoi. Il tacle ce pauvre joueur de Genève. Et puis, oh, vendu l'arbitre! Non, non! Et je ne vous dis pas tous les mots qui volaient dans l'air à ce moment-là. Je disais, chut, ferme tes oreilles, Isaline et Nathan. Et puis là, je me suis dit, waouh, mais là, il y a faute. Mais je dis, mais si je dis ça, je vais me prendre un coup. Il y a un contexte là, je peux pas trop là. Si je vais dans leur sens, ça va. Je dis, allez, Lausanne. Mais si je relève juste que non, là, c'était pas tout à fait juste, je crois pas qu'on m'écouterait beaucoup. Je crois même qu'on me ferait taire. Je vais pas me faire des amis. Donc je dis, je me la coince. Et je continue à soutenir vaillamment Lausanne. Et dernièrement, il m'est arrivé quelque chose de similaire pour un sujet beaucoup plus important que le foot. J'étais dans un groupe et ça se passait bien, un groupe de discussion. Et j'avais vraiment reçu de parler de ce sujet. Et puis ça, voilà, j'allais dire... à une petite mesure. J'avais du succès parce que je sentais que j'étais écouté à ce moment-là. Et à un moment donné, j'ai juste dit quelque chose. Et il y a eu une réaction. Une réaction d'une personne. Quelque chose qui a dérangé. Et c'était violent. Subite, rapide. C'était même irrationnel à un moment donné. C'était fort. Vous savez, parfois... En tant qu'enfant de Dieu, il y a des sujets, on ne se rend pas toujours compte que quand on les aborde dans ce qui nous paraît normal par rapport à l'Évangile, ça peut déranger en fait. Ça peut même réveiller spirituellement les religieux de cette époque, de l'époque dans laquelle on vit. Parce que notre époque a sa nouvelle religion, a sa pensée unique. Notre époque a ce qu'il faut penser et ce qu'il ne faut pas penser, à ce qui est politiquement correct et ce qui ne l'est pas. Tant que ça va dans le sens de l'Évangile, ça va. Mais le jour où ça dévie de l'Évangile, alors ça ne va plus. Tant que vous allez dans le sens de ces nouveaux prophètes autoproclamés qui prêchent leur Évangile, tant que ça va dans leur sens, ça va. Mais à partir du moment où ça dévie de cela, alors on ne vous écoute plus. Et pire que ça, on veut vous faire taire. Et quand vous touchez à ces nouvelles idoles d'aujourd'hui, à ce qui est élevé comme des fois une institution dogmatique, alors vous verrez le visage des gens changer. Mais vous vous direz, mais non, Christian, on est dans une société tolérante, dans une société progressiste, dans une société pleine de progrès, pleine de belles choses, qui fait droit aux minorités. Oui, oui, c'est vrai. Mais ne vous y trompez pas. Notre message, le message de l'Évangile, de manière complète, pas juste une partie, à un moment donné, va faire grincer des dents. Et si on offre sa vie à Dieu et à l'Évangile, il peut arriver, ça peut arriver qu'on se retrouve face à une foule, seule, face peut-être à un groupe, face à une personne, et qu'on se retrouve dans cette situation, même si on ne la recherche pas. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui recherche la confrontation. Je suis plutôt, moi j'aime que les choses se passent bien. Ce n'est pas dans ma nature de confronter les gens. Je ne sais pas si vous, c'est dans votre nature. Alors, il y a peut-être des gens qui aiment bien la discussion, la confrontation, le débat. Et peut-être qu'il y a des caractères comme ça, oui, ça existe, qui vont être du style, qui vont chercher, qui vont peut-être même la provoquer, qui vont se nourrir de cette adversité. Ça, peut-être qu'il y a des caractères comme ça. Mais je crois que de manière générale, je pense qu'on ne cherche pas à créer des problèmes, il me semble. On cherche à ce que ça se passe bien. Moi, je suis plutôt du style, courage, fuyons. Alors peut-être que je ne donne pas cette impression, j'ai l'air sûr de moi comme ça, mais c'est autre chose hein, quand on est face à, quand on est seul face à. Mais vous savez, même si on met les formes, même si on parle le mieux possible, mais qu'on est vrai, même si on dit les choses avec sagesse, même si on est une personne tranquille, pas forcément provocante, même si on n'est pas un syndicaliste dans l'âme, vous savez, cette personne qui arrive à mobiliser, même si on fait les choses, j'allais dire, le mieux possible du monde, à un moment donné, l'Évangile va déranger, va énerver. Et n'essayez pas de vous y préparer. On ne peut pas se préparer à ça. Parce que c'est subi, c'est soudain et c'est violent. Et cette brutalité qu'on peut vivre, Jésus l'a dit, Jésus en a parlé. Vous savez, parfois, on lit l'Évangile et on aime bien certains passages qui nous parlent de l'amour de Dieu, qui nous parle que nous avons été choisis, que pour nous, Dieu est un père, il est même un papa, qu'il est un ami, que Jésus est notre frère, que Dieu veut nous donner la vie et la vie en abondance, que Dieu a des cadeaux pour nous. Et tout ça, c'est vrai. Il n'y a rien de faux là-dedans. Mais c'est incomplet. Parce que Il y a d'autres textes, peut-être qu'on aime moins lire. Ou en tout cas, si on les lit, en tout cas pour ma part, je les lis un peu vite. J'accélère. Ou je les chuchote et j'essaie de les oublier. Comme ce verset où Jésus dit, au moment où il envoie ses disciples dans Matthieu 10, il va dire, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Simple, ça ne veut pas dire simplet. Ça veut dire pas partagé, ça veut dire pur, ça veut dire vrai, entier. Pas dans la duplicité, pas dans le calcul. Mais en même temps, prudent. Vous voyez cet équilibre? Et malgré ça, regardez ce qu'il dit. Mettez-vous en garde contre les hommes, les êtres humains, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage, Marturion, à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et ça, c'est des paroles dures à entendre. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais ça finit bien. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien. Ce texte a une dimension aussi eschatologique. Parce que l'eschatos, en grec, c'est la fin, le bout des choses, eschaton. Donc, la fin des temps, ce qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La fin des temps s'accompagnera de temps glorieux, magnifiques. L'évangile sera annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Il y aura le réveil, il y aura le retour de Jésus, mais sera accompagné aussi de moments difficiles, du règne de l'Antichrist, de cataclysmes, de difficultés. Je lisais en ce début d'année le rapport de Portes Ouvertes qui sort chaque année, qui indexe les persécutions dans le monde vis-à-vis des chrétiens. Et il montrait ce rapport que, alors qu'on pourrait se dire, tiens, il y a eu la pandémie, il y a moins d'activités, les activités sont à l'arrêt, les églises peut-être sont... qu'il y a eu vraiment une augmentation des persécutions des chrétiens dans le monde et du nombre de chrétiens persécutés. Une augmentation. Ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce que c'est une réalité. Peut-être pas encore chez nous, mais c'est une réalité. Mais ne soyons pas triomphalistes. Rappelons-nous de ce que Étienne a vécu. Le soutien de la foule, il l'a perdu très rapidement. Le climat, il a changé très rapidement. Il est passé du climat du succès à celui de la persécution. Certes, si je vous avais parlé, peut-être, il y a plusieurs années en arrière, vous m'auriez dit, mais non, Christian, ça ne peut pas arriver en Europe, en Suisse, toutes ces choses-là. Mais je pense qu'il y a eu 2 ans de pandémie qui sont passés par là et qui nous rappellent que les choses peuvent changer rapidement, que les choses peuvent très soudainement se mettre en place. Et il y a des choses qu'on aurait pensé impossibles qui sont devenues possibles rapidement. Alors soyons-en conscients. On ne peut pas faire grand-chose avec ça, mais c'est juste d'être conscient que ce que nous avons, nous pouvons le perdre. Et c'est ce qu'Étienne a perdu. Une autre chose qu'Étienne a perdu, c'est son avenir. Parce que je pense qu'Étienne, comme chacun d'entre nous, comme toute personne, il avait sûrement des projets. Il avait sûrement des rêves. Il avait sûrement des aspirations. Peut-être qu'il aspirait à faire plus de choses pour le Seigneur. Peut-être qu'il aspirait à se marier. Une bonne aspiration. Ou peut-être à voyager. Annoncer l'évangile dans des endroits qui n'étaient pas atteints, ils étaient au début de, de cette église qui se développait. Il y avait peut-être plein de projets, plein de choses qui étaient là. Peut-être qu'il aspirait à une vie plus riche dans ses relations, d'approfondir ses relations, d'approfondir sa vocation. Mais soudainement, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté ce jour-là. Et au lieu de l'avenir qui lui était prévu, il a offert sa vie et il l'a donnée. Vous savez, quand moi je lis cette histoire, je suis un petit peu remonté contre le Seigneur. Enfin, je l'étais parce que maintenant on est habitué un peu à cette histoire, on la lit un petit peu rapidement. Mais si vous deviez lire cette histoire pour la première fois, vous dites, mais voilà un gars qui est super. Franchement, il est en train de faire un boulot super. Il sert, il est pratique, il est serviable. Et en plus de ça, il prêche bien, il explique qui est Jésus, il explique bien la loi, il connaît bien les choses. Et en plus de ça, il fait du bien autour de lui. Il prie pour les malades, ils sont guéris. Et il prie pour les gens qui ont des oppressions démoniaques, des difficultés. Ils sont libérés. Waouh! Seigneur, il est vraiment bien ce gaillard, ce petit Étienne. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, tu le laisses se faire lapider par des méchants, là, des jaloux, des assassins. Tu laisses faire. Non, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton programme, là? C'est quoi ta stratégie à ce moment-là? Je ne sais pas si ça vous a effleuré, ce genre de questions. Non, peut-être pas. Non, vous ne posez pas ce genre de questions. Heureux êtes-vous. Non, mais essayez d'imaginer. Si on avait quelqu'un comme ça, ici, dans notre église, à Bussigny, et puis qu'il allait à Lausanne, et qu'il parlait, que les gens se convertissaient, qu'il y avait des choses qui se passaient, qu'il aurait ouvert ici, dans le quartier de Bussigny, je ne sais pas moi, une action pour des repas solidaires, avec des distributions d'habits de seconde main, enfin, essayez d'imaginer. Et puis, il y a des gens là qui débarquent, des sortes de voyous là, qui viennent, qui réclament sa tête. On le laisserait? On dirait oui, oui. Vous pensez? On dirait, on en a d'autres. Non, pas celui-là, hein, on en a d'autres. Non, j'ai pas dit. Excuse-moi. Pardon, Seigneur. C'est pas ça que je voulais dire. Je donnerais ma vie, bien sûr, à sa place. Mais c'est vrai, Jésus, il dit ça juste avant. Je bâtirai mon église. L'église est en train de se développer. Et puis là, bon, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? On est en train de construire et puis là, tu nous en retranches. Ça ne va pas très vite là. Vous savez, là, parfois, la volonté de Dieu, elle est mystérieuse. Et elle ne suit pas toujours une logique humaine. Parfois, Dieu ne suit pas notre plan, mais son plan. Dans le psaume 31, et les versets 14 à 15, il est dit « Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. » Vous savez, parfois on lit la Bible en français version 2022, améliorée, à notre sauce, et on lit mes destinées sont dans mes mains. Mes destinées sont dans mes mains. On a nos plans pour notre vie, notre plan de carrière, et on dit à Dieu, bénis ça. Signe juste là. J'ai tout écrit pour toi, pour te gagner du temps parce que tu es très pris. Mais tu as juste à signer là, en bas. Oui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux faire route avec toi. Mais tu t'assieds juste là à côté de moi, dans la voiture, mais c'est moi qui conduis et je t'explique où on va. Mais ce serait super que tu sois là avec moi. C'est important comme ça. Je n'aurai peut-être pas d'accident. Et Jésus devient un peu le talisman, le protecteur. Mais ce n'est pas ça être disciple. Vous savez, on a, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des orateurs qui disent, mais il vous faut rêver, quels sont tes rêves? Quels sont les rêves que tu as sur le cœur? Est-ce que vous avez déjà entendu un orateur qui dit, quels sont les rêves de Dieu pour toi? Pas souvent entendu. Est-ce qu'on lui demande à Dieu quels sont ses rêves à lui? Moi, je. Et toi, Seigneur? On se comprend bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des projets. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des désirs. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des rêves pour notre avenir ou une vision pour notre avenir. Ce que je suis en train de dire, c'est de ne pas placer notre avenir au-dessus du Seigneur. Ne plaçons jamais notre avenir avant notre consécration. Si un jour nous avions à faire un choix entre tout ce que nous avons prévu de faire et la consécration, eh bien faisons le bon choix. Ne tâchons pas d'embarquer le Seigneur dans notre avenir, mais embarquons-nous dans l'avenir du Seigneur, dans son avenir. Seigneur, que tes rêves soient mes rêves et que mes rêves deviennent tes rêves. Vous savez, il y a un mot, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, qu'il ne faut pas trop employer dans vos prières, c'est le mot « jamais ». Vous avez déjà entendu ça? Il ne faut jamais dire « jamais » avec le Seigneur. Moi, j'avais dit à Seigneur, où tu veux, quand tu veux, au début de mon, quand je voulais le servir. Mais deux petites choses, Seigneur, jamais pasteur et jamais en Europe. J'étais en Suisse à l'époque, je disais jamais en Suisse. Le Seigneur m'a déjà raccroché à la Suisse, il m'a fait tomber amoureux d'une lausannoise, ça m'a aidé. Mais j'avais dit à Dieu, jamais. Si jamais vous voulez savoir les raisons pourquoi j'avais dit jamais, j'en ai. Et je pourrais vous les expliquer. Mais je n'ai pas le temps là, j'aimerais avancer. Vous savez que même dans nos rêves, Dieu veut nous toucher. Et en fait, je vais aller encore un peu plus loin dans cette pensée-là. Non seulement des fois nos rêves ne correspondent pas aux rêves de Dieu, mais parfois elles le correspondent. Parce que Dieu, vous savez, il sait ce qui est bon pour nous et il nous connaît mieux nous-mêmes que nous le connaissons. Alors, c'est vrai que les rêves de Dieu, la plupart du temps, correspondent aussi à notre caractère, notre personnalité, à ce que nous portons, et Dieu va nous utiliser dans ce sens-là. Donc, les rêves de Dieu vont aussi rejoindre les nôtres, et très souvent, ça peut arriver, bien sûr, je ne suis pas en train d'opposer ça, mais même quand ça arrive que les rêves de Dieu soient alignés avec mes rêves et mes projets, même là, on a besoin d'être touché par Dieu, d'être sanctifié. Par sanctification, je veux dire qu'il peut arriver qu'il y ait un léger décalage entre Dieu et nous, entre comment nous on voit les choses et comment lui les voit. Dimanche passé, nous avons eu Jean-Marie Rebecca qui nous parlait de Pierre. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là? Qui c'est qui était là dimanche passé? Lève la main. Ça va, je parle à un public qui a entendu cette prédication. Et il nous dit que Pierre, c'était un fonceur, un homme qui allait, qui montrait l'exemple et qui ne craignait pas de mourir. Et il a déclaré à Jésus, dans Matthieu, il a dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, parce que Jésus annonce que voilà, ils vont être, tu ne le seras jamais pour moi. Et il dit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. C'est le caractère de Pierre. Et c'est vrai que quand l'occasion s'est présentée, il a pris une épée et il a frapper ce soldat pour essayer de défendre, il aurait dû mourir à ce moment-là. Mais Jésus est intervenu parce que ce n'était pas le bon moment et c'était la mauvaise manière. En plus, il voulait tuer quelqu'un. Jésus a dit « range ton épée ». Et lorsqu'il a fallu se positionner plus loin pour Jésus, là, il a eu peur. Et là, au contraire, il a renié et on connaît le reniement de Pierre. Et lorsque Jésus rétablit Pierre ne parle plus de la même manière. Son attitude a changé. Et j'ai bien aimé Jean-Pierre qui a relevé à la soirée de prière qu'on a eue jeudi. Il a relevé quelque chose très percutant et très juste. Il a dit que Pierre, par l'expérience qu'il a vécue, est passé du Seigneur je au Seigneur tu. Je m'explique. Quand il dit la première déclaration à Jésus, il dit « Non Seigneur, je mourrai pour toi, je, si eux tous le font, moi je ne le ferai pas. Seigneur, je. » Et quand Jésus va dire par trois fois à Pierre « M'aimes-tu ?» va le rétablir, va le ramener à ça, pour le guérir aussi, il va dire « Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, tu le sais bien. Seigneur, tu. Seigneur, tu sais que je t'aime. » Nos rêves, nos projets, même alignés dans la volonté de Dieu, ont besoin d'être sanctifiés. Et cette sanctification, c'est le passage du Seigneur je au Seigneur tu. Même si c'est les rêves du Seigneur et que c'est nos rêves. Et on retrouve ça tout au long de l'histoire de l'Église, dans l'Ancien Testament, dans différentes histoires, chez Pierre. C'est le cœur de l'homme qui n'a pas changé. C'est mon cœur. C'est « je veux y arriver par mes propres forces à accomplir mon rêve et le rêve de Dieu. » Il y a un autre homme, Moïse, qui avait sur le cœur, qui avait le rêve de libérer son peuple. Et il l'a fait par ses propres forces, par le « je ». Et il a tué un Égyptien. Et Dieu a dû le travailler pendant 40 ans pour arriver au moment où Dieu l'a appelé à aller libérer son peuple parce qu'il était dans le Seigneur tu. Et ça peut mettre du temps pour passer du Seigneur je au Seigneur tu. Je vais terminer parce que le temps passe. Et je continuerai la prochaine fois. Je parlerai de quelque chose de plus positif, ce que Étienne a reçu, la joie, la satisfaction de rester fidèle à ses convictions, de vivre, il a vécu des expériences extraordinaires. Enfin, je reviendrai sur ce qu'il a reçu, je reviendrai sur l'impact qu'il a eu, ça vaut la peine de s'arrêter. Mais j'aimerais terminer, si vous le voulez bien. Je reviens à mon questionnement du début, qui disait, qu'est-ce qu'être un disciple du Seigneur en 2022 ? Qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus en 2022 ? J'aimerais terminer sur cette pensée que dans le discours que Jésus a eu avec Pierre, le dernier discours qu'il a eu avec lui, ce moment où il le réhabilite, vous savez, c'est la dernière parole qu'il dit à Pierre, c'est quoi ? Dans ce fameux texte de Jean 21, il va lui dire « Toi, suis-moi. » Toi, suis-moi. C'est juste après lui avoir rappelé qu'il va effectivement mourir martyr. Il lui dit, suis-moi. C'est intéressant. Ce qui me frappe, c'est que c'est pas qu'il dit ça, c'est que c'est la deuxième fois qu'il dit ça. Dans l'Écriture, il dit une première fois, 3 ans avant, au début du ministère de Jésus, quand il appelle Pierre à le suivre, à devenir son disciple, il dit, toi, suis-moi. Et à la fin, la dernière parole qu'il dit à Pierre, il dit, toi, suis-moi. Parce qu'il y a un approfondissement de la compréhension pour Pierre de ce qu'est être un disciple de Jésus. Dietrich Bonhoeffer, qui a beaucoup écrit sur le discipulat, on l'appelle ça comme ça aujourd'hui, lui, il ne l'appelait pas comme ça. Il avait un mot en allemand qui s'appelle Nachfolge, qui veut dire la suivance du Christ. Dietrich Bonhoeffer disait que être disciple du Christ est un mouvement, est une réformation constante. Est une réforme permanente. Ce n'est pas quelque chose de statique. Et lorsque Jésus redit cela à Pierre, je pense qu'il a mieux compris ce que, et il a compris d'une façon renouvelée ce que ça voulait dire, suivre Jésus. Il l'avait suivi, il avait compris ce que c'est être un disciple. Mais il y a eu une réformation de sa compréhension de ce que ça voulait dire, suivre Jésus. Et Jésus nous invite ce matin à approfondir notre relation avec lui, notre suivance avec lui. notre marche avec lui. Donc peut-être dans les zones de ma vie où je suis un peu comme Pierre, triomphaliste, au contrôle, orgueilleux. Et ça, ça nous guette tous, qu'on ait 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, qu'on en ait 2, 10. Nous sommes dans cette réformation permanente, dans la suivance de Christ, quelque chose de dynamique. Vous savez, quand on est dans le « moi-je », j'ai mieux compris que toi. Je vais t'expliquer, etc., etc. Vous savez, dans les zones de ma vie où c'est figé, où c'est bloqué, où je suis resté sur une image fixe de peut-être ce que je pensais, il y a une invitation à le suivre tout à nouveau, à le laisser régner, à dire « toi, tu sais, sans toi, je ne peux pas y arriver. Je veux te suivre. Je veux t'écouter dans ce domaine. Je veux faire ta volonté et non ma volonté. Amen. » Seigneur, nous plaçons devant toi maintenant. Plaçons nos cœurs devant toi et nous voulons nous mettre à ton écoute. Prie de bénir chacun ici. Tu fais un bout de route avec chacun de nous. Les chemins sont différents. Les appels sont différents. Nos cœurs sont différents. Nos vies sont différentes. Mais tu nous appelles tous à te suivre et à entrer dans ce processus que nous avons partagé ce matin. Amen. J'aimerais juste qu'on puisse juste rester garder les yeux fermés. J'aimerais juste qu'on prenne un temps de silence. Vous savez, on parle beaucoup, on dit beaucoup de choses. Mais je vous propose qu'on prenne juste un temps de silence, qu'on prenne peut-être une minute, deux minutes. Juste qu'on se place devant le Seigneur et que chacun, évidemment, puisse l'écouter et le laisser nous parler ce matin encore. Et je redonnerai, quand Daniel reprendra la parole, on pourra continuer. Prenons ce temps de silence maintenant.